Radio Grand Ciel présente Tournepage, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blum. Je reçois aujourd'hui Philippe Dulac, qui a écrit un ouvrage évoquant la vie du commandant de la vénerie de Louis XV, Jacques Le Fournier d'Yauville. Et grâce à cet ouvrage, nous comprenons mieux l'histoire de la vénerie, mais aussi l'histoire de France, puisque ce commandant est le contemporain de Louis XV. Philippe Dulac, bonjour.
Bonjour, Christiane Blain.
Alors, j'en reviens à votre vie. Une très belle carrière, inspection des finances, cabinet ministériel, direction générale de Paris-Bas, mais aussi la vénerie. Vous y entrez à 18 ans. En 1975, vous reprenez la direction de l'équipage normand Picardie, qui chasse le cerf à cour en forêt de Dreux et de Senonge. Président de la Société de Vénerie en 2000 et en 2011, président de la Fondation Sommeur pour la chasse et la nature. Rédacteur en chef de la revue Vénerie depuis 20 ans, vous êtes également éditorialiste de Billboard. En 2010, publication de l'équipage normand, Picardie, à 50 ans, aux éditions de Bourgfontaine. Alors, cet ouvrage, qui est un très bel ouvrage, puisque il y a de nombreuses illustrations. Il est publié aux éditions de La Croix du Loup. Et je crois, Philippe Dulac, que vous voudriez dire à nos auditeurs comment se le procurer.
Alors oui, les éditions La Croix du Loup, c'est une petite maison d'édition qui est gérée par deux bibliophiles qui s'attachent à la qualité des produits qu'ils sortent. Et d'ailleurs, je pense que mon livre en a beaucoup bénéficié. Mais évidemment, ils n'ont pas une force commerciale très considérable. Et donc, pour se procurer le livre, eh bien, il faut s'adresser à eux. Et ils se trouvent 140 boulevard Haussmann à Paris, dans le 8e arrondissement. Les éditions donc de La Croix du Loup. Et ils ont une adresse mail qui est édition de la Croix du Loup en minuscule et tout attaché, @gmail.com.
Voilà, vous peut-être vous redonner quand même une fois le mail.
Alors le mail, c'est édition avec un S de la Croix du Loup, le tout attaché, @gmail.com.
Voilà, alors je dirais que votre livre est un livre très intéressant parce que d'une part, on y apprend beaucoup de choses sur l'histoire de France, mais aussi sur l'histoire de la vénerie, et qu'on lit ça un peu comme un roman, parce que votre héros va avoir une vie qui a commencé quand même d'une façon assez un peu triste dans ce manoir où il vit un peu dans la boue, et il va finir cela sous les ors de Versailles. Alors, justement, vous avez choisi ce commandant, Dieuville. Peut-être pouvez-vous nous évoquer sa vie maintenant ? Alors, bien sûr, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je rappelle à nos auditeurs que vous pourrez retrouver aussi une émission sur notre site internet. Alors, justement.
Écoutez, en faisant ce livre, j'ai eu deux préoccupations. La première, c'est de faire un travail sérieux sur le plan historique, c'est-à-dire qu'avec la collaboration de Marie de Lestapie, nous avons fait des recherches en archives qui ont duré 2 années. Et celles qui visaient l'organisation de la Vendée royale ont été couronnées d'un plein succès parce que à Versailles, tout était enregistré, noté, livre de compte, tout ce que l'on voudra. J'ai même le nom des chiens, le nom des chevaux. Enfin, c'est incroyable. On retrouve tout ce que l'on veut. S'agissant de l'homme de Hauteville lui-même, ça a été beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas retrouvé d'archives familiales. Donc, on n'a pas retrouvé de correspondance, mais on a retrouvé l'essentiel, son acte de naissance, son acte de mariage, son inventaire après décès. Enfin bon, on le situe très bien. Alors, donc, nous avons fait un travail très sérieux sur le plan des investigations en archives, de sorte que le livre repose sur des sources solides, mais en même temps, je me suis attaché, compte tenu de mon expérience de veneur, à faire en sorte que le personnage vive et que quand il va à la chasse, on est à la chasse. Et donc, sur les 15 chapitres que le livre comporte, on se trouve porté par une histoire. C'est comme un roman, mais pas dans le sens péjoratif. Ce n'est pas d'imagination pure et simple. C'est simplement une façon de présenter la vérité historique d'une manière telle qu'on soit porté par la lecture plutôt que d'avoir à faire effort.
Alors justement, en chasse à cour, il y a des termes peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas forcément, et vous avez déjà employé le terme de veneur.
Oui, alors écoutez, la vénerie a un vocabulaire très riche, qui d'ailleurs a alimenté pour une part non négligeable la langue française, car on dit marcher sur les brisés, je ne sais quoi. Tout ceci, c'est le vocabulaire de la vénerie qui date de grosso modo de la Renaissance et qui n'a pas beaucoup varié depuis lors. Alors, j'ai essayé de ne pas employer trop de mots de cette nature-là pour que le lecteur ne soit pas trop déconcerté. Je pense que même un non-veneur comprend très bien.
Effectivement. Eh bien, revenons à la vie de ce jeune homme, puisque ça commence très tôt.
Mais écoutez, il est de petite noblesse. Son père est commandant du guet de la mer sur les côtes de la Manche, car depuis des décennies ou des siècles, on se méfie toujours des Anglais et donc on surveille les côtes attentivement. Le père est commandant du guet de la mer et la mer appartient à l'une des quatre familles qui ont été autorisées par leur roi à fabriquer du verre en forêt. Et ce sont tous à l'origine des veneurs.
Ah oui.
C'est assez étonnant, mais ça date de Charles IX. Et donc, sa mère est une cacrée. Et c'est l'une des familles qui fabrique du verre en forêt d'eux. Et il passe son enfance dans un manoir qui est quasiment une ferme.
Donc, oui, c'est voilà, ça. Il y a une illustration et effectivement, il a les pieds dans les sabots.
Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un enfant de la terre. Et puis ensuite, eh bien voilà, il s'en va pour Versailles et là, il découvre un monde absolument fabuleux parce que le Versailles du XVIIIe siècle, c'est d'abord, c'est énorme. Le château de Versailles abrite entre 2 et 3 000 personnes. Le grand chenil qui se trouve derrière la grande écurie doit en abriter entre 150 et 200. Donc, tout est d'une dimension phénoménale à Versailles.
Oui, c'est un monde particulier.
Oui, c'est sans doute destiné à donner de l'institution royale et de la personne du roi une image qui approche de la transcendance. Oui. Ça n'est pas un dieu, mais on s'en rapproche.
Alors, les bases du métier, il va les apprendre et il va commencer vraiment en bas de l'échelle et on sait qu'il va devenir commandant. Alors, justement, pour en arriver là, il a beaucoup de choses à apprendre, par exemple.
On lui apprend à soigner les chiens tous les jours. On lui apprend à faire le bois, c'est-à-dire à aller le matin pour repérer l'endroit où on va trouver un animal à chasser. On lui apprend à sonner de la trompe. On le perfectionne dans l'art équestre. On lui apprend le vocabulaire de la vénerie et la façon de prononcer les mots. Enfin, il y a toute une éducation qui se fait au chenil au cours de ses premières années à Versailles.
Et on peut dire qu'il va connaître chaque chien. Et pourtant, la meute était nombreuse.
Oui, oui. La petite meute et la grande meute comportent chacune environ 200 chiens. Mais il est indispensable pour ceux qui conduisent ces chiens à l'achat de les connaître un par un.
Oui. Alors peut-être ça, vous pouvez évoquer un petit peu, parce qu'il y a différents chiens qui sont placés dans différents endroits, parce que chacun est, je dirais, responsable un petit peu.
Oui, alors à cette époque-là, on chasse avec une succession de relais, c'est-à-dire qu'on met à la chasse les très jeunes chiens au départ, il y en a une quarantaine environ, Et puis, dans un délai qui ne dépasse guère un quart d'heure, on met la vieille meute. En fait, elle n'est pas vieille, ce sont des chiens adultes. Et puis, un quart d'heure après encore, on met la seconde vieille meute. Et puis enfin, on met des chiens qui sont un peu plus âgés, mais très expérimentés, qui s'appellent les six chiens. Mais en fait, il n'y en a pas six, il y en a plutôt 18. Voilà. Et au total, on découple à la chasse 90 ou 95 chiens. Ce qui est considérable, aujourd'hui, on découpe couramment 40-45 chiens, c'est-à-dire la moitié.
Oui. Alors, il va se marier, et là, c'est quand même important.
Il va se marier, et comme c'est un homme avisé, il ne va pas chercher femme n'importe où, il épouse la fille ou la belle-fille de Monsieur de Sourcy, qui était son mentor.
Voilà, il l'avait aidé, bien
voilà.
sûr.
Monsieur de Sourcy avait certainement pris Dioville en amitié. Il en avait fait son élève. D'élève, il est devenu son successeur à sa disparition. Et avant cela, il a épousé sa fille.
Voilà. Et alors, il va y avoir plusieurs chasses, des chasses très importantes. Alors, peut-être évoquer ces différentes chasses.
Alors, écoutez, d'abord, le roi chasse essentiellement le cerf, mais il peut aussi, à l'occasion, chasser le chevreuil, car il a une meute de chevreuil. Il peut aussi aller suivre le vautré qui chasse le sanglier.
Alors, le vautré... mot à expliquer.
Le vautré est un équipage qui chasse le sanglier. Voilà. Donc, il y a un vautré royal. Et enfin, il y a une meute pour chasser le lièvre qui est composée pour une bonne part de lévriers. Donc, voilà, le roi a pas loin de 1000 chiens pour chasser, ce qui est évidemment colossal. Et il a pas loin de 1000 chevaux pour chasser aussi. Donc, pas 1000 chevaux, mais au moins 600 ou 700. Et compte tenu du fait que beaucoup de gens viennent pour participer à des chasses, notamment en forêt de Fontainebleau, on sait par les mémorialistes que le jour de la Saint-Hubert, il peut y arriver qu'il y ait 1000 cavaliers.
1000 cavaliers.
Ce qui est à peine imaginable.
Oui, c'est ça, c'est énorme. Alors, il va devenir commandant. Et là, le roi va vraiment lui parler et même, il va recevoir un jour le pied. Alors, expliquez-nous.
Ah oui, alors écoutez, les honneurs du pied consistent dans le fait qu'on prélève les deux antérieurs de l'animal qui a été chassé et pris, on les tresse et on les offre. Le roi, par définition, reçoit le pied droit. Et il fait du pied gauche ce qu'il entend, et très souvent il le remet à quelqu'un de son choix. Et un jour, à la fin de la curée qui suit une messe de Saint-Hubert en forêt de Fontainebleau, le roi remet un pied d'honneur à Dioville. Si vous voulez, c'est un geste très fort parce que ça consiste dans le fait que le patron honore son serviteur, ce qui est très, très marquant sur le plan psychologique et évidemment très gratifiant.
Oui, là on voit que vraiment Dioville, pour lui c'est vraiment le bonheur, l'émotion.
Absolument.
Oui. Alors aussi, parallèlement à cela, il va y avoir une campagne de construction pour les rendez-vous de chasse.
Oui. Louis XV a beaucoup bâti pour la chasse. Dans certains cas, il a bâti des châteaux. Il a agrandi le château de Fontainebleau. Il n'est pas le premier à l'avoir fait. Tous les rois ont bâti à Fontainebleau, mais lui n'a pas fait exception. Il a quasiment reconstruit le château de Compiègne, qui était dans un état pas très brillant. Il en a fait ce qu'on connaît aujourd'hui. Et surtout, je dirais, il a fait construire des rendez-vous de chasse dans toutes les forêts où il allait chasser. Comme il y en avait beaucoup, il a dû faire bâtir une quinzaine de rendez-vous de chasse.
Oui.
Alors, dans certains cas, c'était une simple maison forestière dans laquelle on aménageait une grande pièce avec une belle cheminée, quitte d'ailleurs à agrandir la maison. Mais dans d'autres cas, c'était de petits bijoux d'architecture qui étaient réalisés par Ange-Jacques Gabriel ou les meilleurs architectes de l'époque.
Oui.
Donc c'était une sorte de symbole de la perfection à laquelle était portée la pratique de la vénerie à cette époque.
Alors on fera une conclusion en disant que la révolution n'est pas loin.
La Révolution arrive, elle est précédée d'ailleurs par une décennie terrible, la décennie 1760, où le roi voit disparaître beaucoup de gens qui l'entourent, et on sent que les orages viennent.
Chers amis auditeurs, je vous rappelle le titre de cet ouvrage, Une vie au service du roi Dioville, commandant de la vénerie de Louis XV. Un grand merci à vous. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Philippe Dulac, merci.
Merci, Christiane Blain.